Bonjour à tous. J'aimerais que nous puissions faire une première lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 16. Et on va lire à partir du verset 24. Il est écrit ceci, Matthieu chapitre 16, verset 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme. » Amen. Et j'aimerais qu'on puisse faire une deuxième lecture dans l'Épître aux Philippiens, s'il vous plaît. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Et j'aimerais, si vous voulez bien, encore remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons d'entendre ta parole, et merci parce que tout est parfait, Seigneur, dans les Saintes Écritures. Et tout ce que tu as écrit, Seigneur, tout ce que tu nous as laissé est utile et inspiré, Seigneur, pour nous amener plus loin. L'apôtre Paul disait qu'il n'écrivait pas avec de l'encre sur des lettres, mais dans les cœurs, par ton esprit. Et Seigneur, ce que nous te demandons, c'est que le message, Seigneur, puisse être gravé dans les cœurs. Et pour cela, nous te demandons l'assistance de ton esprit, Seigneur. Afin que ça ne soit pas juste un message de plus, mais que le message puisse être gravé dans les cœurs à la gloire de ton nom, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Tu as dit « Demandez, vous recevrez ». Alors Seigneur, merci d'avance de ce que tu vas faire au travers de ce temps. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce matin, si on est venu dans ce lieu, pourquoi est-ce qu'on est venu? Je pense que d'abord, on est venu pour adorer Dieu. Vous êtes d'accord? C'est ce que l'on a fait, on a pris du plaisir à le faire. Et vraiment, c'est une grâce de pouvoir adorer le Seigneur. Je crois aussi qu'on est venu pour entendre son message, pour entendre ce qu'il a à nous dire. Je pense que la plupart, si nous sommes venus dans ce lieu, c'est vraiment parce que l'on a envie d'entendre la voix de Dieu. Et je crois aussi que si on est venu dans ce lieu ce matin, c'est aussi parce que nous qui avons choisi Jésus comme Seigneur, on a envie de faire des progrès. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Faire des progrès? Oui? D'accord. Avant de remonter au ciel, Jésus il va dire à ses disciples, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, ne le cherchez pas, il va dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc Jésus va dire « Faites des disciples, pas des chrétiens, des disciples, des disciples. » Si on regarde dans le dictionnaire, un disciple c'est quoi? Un disciple c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. En gros, c'est un élève. comme quelqu'un qui va à l'école. C'est celui qui apprend quelque chose de la part d'un maître. Mais un disciple, c'est aussi quelqu'un qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître. Un disciple, c'est donc celui qui apprend, mais c'est celui aussi qui suit l'exemple. Si j'étais un super peintre et que je vous faisais un tableau, je pourrais vous montrer un exemple. Il faut faire comme ça, manier le pinceau comme ça, utiliser la peinture de cette manière-là. Et si vous voulez apprendre, si vous voulez faire comme moi, alors vous m'écouterez et vous suivrez l'exemple que je vous montrerai. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui suit l'exemple. Un chrétien, c'est celui qui a choisi de faire de Jésus son maître. C'est celui qui a choisi de faire de Jésus son exemple. Souvent, on a cette expression, j'ai fait de Jésus mon sauveur et mon Seigneur. Et quand on regarde à Jésus, dans la Bible, il y a toujours deux aspects. Il y a le sauveur et il y a le Seigneur. Il y a ce que Jésus a fait et que nous ne pouvons pas faire. Par exemple, mourir pour le péché, ça c'est Jésus qui l'a fait. Vaincre le péché à la croix, c'est Jésus qui l'a fait. Et ça, je ne pourrais pas le faire. Et souvent, des fois, le problème des chrétiens, c'est qu'on essaye de faire ce que seul Jésus a pu faire à la croix. Vous avez un problème avec le péché, vous ne pouvez pas le vaincre par vous-même. Jésus l'a fait. Notre part, c'est de croire, non pas en ce que nous, on peut faire, mais en ce que Jésus a déjà fait à la croix, parce qu'il est sauveur. Quand on n'arrive pas à se sortir de quelque chose par nous-mêmes, on a besoin d'un sauveur. Quand on ne peut pas se sortir par nous-mêmes du péché, on a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Il a fait des choses, et notamment à la croix, que ni vous ni moi n'aurions pu faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu. Parce que moi, je ne pouvais pas le faire. Moi, je ne pouvais pas me délivrer de mon péché. Alors Jésus-Christ est venu. Il a vaincu le péché pour moi. Il m'a donné la victoire. Et moi, il me suffit de la saisir par la foi. Jésus est un sauveur. Dépouiller les dominations, les autorités, le diable, ça, c'est Jésus qui l'a fait à la croix. Et ma part à moi, c'est simplement de croire en sa victoire. Et lorsque je le crois, je le vois s'accomplir. Quand on regarde à Jésus, on ne peut pas tout faire ce qu'il a fait. Il y a des choses que lui seul était capable de faire, car il est le Fils de Dieu. Il y a des choses où il est notre sauveur. Et être chrétien, c'est simplement saisir par la foi ce que le Seigneur nous a donné. Ça, c'est le premier aspect. C'est quand on dit que Jésus est notre sauveur. Mais Jésus, il est aussi notre Seigneur. Et quand on dit que Jésus est notre Seigneur, ça veut dire que l'on peut apprendre, que l'on peut prendre des choses en exemple. Il y a des choses que Jésus a faites que moi je peux faire. Jésus va dire, vous m'appelez maître, et vous le dites bien, car je le suis. Il y a des choses que l'on peut apprendre. Un jour, un disciple va dire à Jésus, enseigne-nous à prier, apprends-nous à prier. Ça veut dire qu'en regardant Jésus, en écoutant Jésus, on peut apprendre des choses, apprendre à prier. Dans Jean au chapitre 13, verset 15, on va le lire plus tard, Jésus va dire, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. À ce moment-là, c'est un exemple, ça veut dire qu'on peut le faire, puisqu'il y a un exemple. Aux Philippiens, Paul va dire, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Là, il est parlé d'un modèle. Donc, Paul, il dit qu'il fallait l'imiter parce que lui-même imitait le modèle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'on peut faire, nous, qui sont de notre responsabilité. Oui, il y a des choses que Jésus a faites et lui seul pouvait le faire, mais il y a aussi des choses que nous pouvons faire. Et être un disciple, c'est chercher à apprendre, à être enseigné, c'est chercher à faire comme le modèle, c'est chercher à faire comme le maître. Et dans le texte que l'on a lu dans Matthieu 16, il nous est dit que si on veut être un disciple, il faut renoncer à nous-mêmes, se charger de notre croix et le suivre. Se charger de notre croix. Et c'est de ça dont j'aimerais que l'on puisse parler ce matin. Car si là il est écrit que le disciple c'est celui qui prend la croix, bien, il faut savoir ce que ça veut dire. Tout à l'heure on l'a chanté, « Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix ». On l'a chanté. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire ? Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Si on veut faire selon le modèle, si on veut faire quelque chose, vous êtes d'accord qu'il faut bien comprendre ce que c'est. Si par exemple, je vous dis, est-ce que tout le monde... si vous allez par exemple chez un médecin, et que le médecin vous dit « il faut prendre le médicament », vous allez dire « d'accord, mais lequel ?» On a besoin de précision, on a besoin de savoir ce que c'est exactement. Paul va dire aux Philippiens « ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». D'accord, mais il faut bien comprendre ce qu'étaient ces sentiments-là, pour qu'ensuite on puisse chercher à les avoir en nous-mêmes. Alors, est-ce que ça vous intéresse d'avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Il nous est parlé donc de prendre notre croix. Et je crois qu'on ne peut pas parler de la croix du disciple sans d'abord parler de la croix du maître. On ne peut pas parler de la croix que nous, nous devons porter avant de parler de celle que Jésus, il a portée. On ne peut pas prendre notre croix si on n'a pas compris ce que Jésus a fait et ce que ça veut dire prendre notre croix. Alors dans l'Épître aux Philippiens, le texte que l'on a lu, Paul va expliquer ce que c'est que la croix. Vous savez, parler de la croix c'est comme un diamant aux milliers de facettes. On peut pas, tous les messages du monde que les hommes pourraient apporter ne peuvent pas décrire parfaitement la croix. Et ce matin, ça sera que un simple éclat, un simple angle de vue de la croix. Ça ne peut pas être la totalité, c'est pas possible. Mais en tout cas, il y a des aspects que nous pouvons comprendre ce matin. Mais d'abord, pour comprendre ce que c'est que prendre la croix, il faut comprendre ce qu'était que la croix de Jésus. Il nous faut bien comprendre qui était Jésus. Le fondement de l'œuvre de la croix, c'est vrai, c'est Jésus qui l'a fait. Mais pour comprendre ce qu'il a fait, il faut bien comprendre d'abord qui il est. Donc, dans le texte que l'on a lu, dans les Philippiens au chapitre 2, il nous est dit de Jésus au verset 6, « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Ici, il nous est parlé de la forme de Dieu et de l'égalité avec Dieu. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est fondamental, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Il existait en forme de Dieu. Quand nous parlons de Jésus-Christ, quand nous regardons à Jésus-Christ, il faut bien comprendre qu'il est Dieu. C'est le fondement. Quand il a été annoncé la venue de Jésus, Ésaïe va dire « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » On l'appellera Dieu, Dieu puissant. Dans Matthieu, chapitre 1er, verset 23, il est dit que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Il est Dieu. Jean-Baptiste va dire « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. » Et il parle comme étant de la terre. « Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est Dieu et qu'il est au-dessus de tout. Il n'y a pas de niveau plus haut, il n'y a pas de position plus élevée que celle de Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu. Il n'a pas été créé, il est de tout temps, il est Dieu. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 8, le Père va dire au Fils, « Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton... De, » Pardon. Il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Jésus, c'est celui qui règne, qui a... autorité. Dans Colossiens, Paul va dire « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Tout ce qui existe, de la plus grande des galaxies, à la plus petite molécule de la plus petite des poussières, a été créée par Jésus-Christ et sert pour Jésus-Christ. Souvent on dit « Oh merci Seigneur, tu as créé le monde pour moi, tu as fait toutes ces choses belles pour moi ». C'est faux. Tout a été créé pour Jésus-Christ. Tout a été créé à sa gloire, nous y compris. Du plus grand au plus petit, de tout ce qui peut exister, tout. Les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il faut bien comprendre qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Mais il nous est dit que oui, il était en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Au verset 6, il nous est parlé de la forme de Dieu. Au verset 7, il nous est parlé de la forme du serviteur. Mais effectivement, Jésus est Dieu, mais il a accepté de se dépouiller de tout ce qui faisait sa divinité pour paraître comme un simple homme. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru comme un simple homme. Mais même s'il s'est fait homme, son identité reste la même. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. L'apôtre Paul, il faut bien comprendre cela. Ensuite, l'apôtre Paul nous dit de ce que ce Dieu, Jésus-Christ, a fait. Nous voyons dans ce texte que Jésus-Christ a fait un choix. Il a fait le choix de s'humilier. Étonnant. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous aviez tout pouvoir entre vos mains et que tout avait été créé par vous et pour vous ? Il nous est dit que Jésus-Christ s'est humilié. Verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même. Verset 8, il s'est humilié lui-même. Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je suis humble et doux de cœur. Il s'est humilié. Littéralement, ça veut dire quoi, s'humilier ? S'humilier, ça veut dire descendre, en dessous de quelqu'un. Littéralement, si par exemple, je voulais m'humilier auprès d'Emeric, ben, je descendrais d'un cran. Je me mettrais à genoux, si vous voulez, pour que lui, il soit plus élevé, qu'il soit plus haut. Vous comprenez ? S'humilier, c'est descendre. Et il nous est dit que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, l'Alpha et l'Oméga, il a fait un choix. Il a fait le choix de descendre. Il a fait le choix de s'abaisser. Il a fait le choix de laisser le règne pour prendre le service. Il a fait le choix de laisser sa position supérieure pour prendre la position du serviteur. Dans Marc au chapitre 10, verset 45, Jésus va dire « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » On voit que Jésus-Christ est descendu. Il est descendu parmi nous, mais même parmi nous, il n'est pas venu pour régner. Déjà, le fait qu'il vienne en tant qu'homme, c'est un abaissement. Mais en plus de venir en tant qu'homme, il a choisi de descendre encore pour servir les hommes. Et même, il a choisi de servir, de descendre encore et d'aller jusqu'à la mort de la croix. En résumé, qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a échangé les vêtements royaux pour le linge du serviteur. Il a abandonné sa couronne de gloire pour une couronne d'épines. Il a abandonné le sceptre de sa gloire pour un roseau avec lequel on se moquait. Il a abandonné le trône pour aller jusqu'à la croix. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Dieu a fait. Et enfin, Paul nous dit pourquoi il a fait cela. Il nous est dit, juste avant qu'il y ait ce verset « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », il nous écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pourquoi Jésus a fait ça ? Parce qu'il a agi dans notre intérêt. Parce que Jésus n'a pas regardé à ce qui était avantageux pour lui, il a regardé à ce qui était avantageux pour nous. Mon intérêt, c'est quoi ? Mon intérêt, c'est ce qui m'est avantageux. C'est les choses que je vais faire pour moi. C'est ce qui va me faire plaisir. Et Jésus, il nous est dit, ne va pas regarder à ses intérêts. Il ne va pas regarder à ce qui est avantageux pour lui. Il va regarder à ce qui est avantageux pour nous. Et lorsque l'on a compris ça, on a compris ce que c'est que l'un des aspects de la croix. La croix, c'est regarder l'intérêt de l'autre. La croix, c'est s'abaisser volontairement pour élever l'autre. La croix, c'est offrir sa vie, pas pour le plaisir de l'offrir, c'est offrir sa vie pour bénir les autres. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. » La croix, on pourrait mettre d'autres mots par-dessus, on pourrait dire l'amour. L'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est un sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'important pour Christ, ce n'était pas son trône, ce n'était pas sa royauté, ce n'était pas le fait d'être au-dessus de tout. L'important pour Christ, c'était que nous puissions être pardonnés. La grâce de Dieu et le salut, c'est quoi ? Ben, c'est Dieu qui paye un prix. Et avant de parler du prix que nous, on peut payer, il faut toujours se rappeler qu'au tout début, c'est Dieu qui paye le prix. Et si on est sauvé, si on peut être dans sa présence, ce n'est pas d'abord parce que je paye. Le salut, c'est gratuit. C'est parce que c'est lui qui a payé. Et si on peut être sauvé, c'est parce que c'est Dieu qui a payé. Il y a un texte dans la Bible qui est vraiment particulier où on voit cet état d'esprit. C'est dans Jean au chapitre 13. On va le lire ensemble. Jean au chapitre 13. Et on voit vraiment l'état d'esprit de Jésus. C'est pendant le dernier repas, le repas de la Pâque. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc nous parlent de l'institution de la Sainte Cène, mais l'évangile de Jean nous parle d'autre chose que Jésus a fait à ce moment-là. Mais on sait que c'est pendant la Pâque, parce qu'au verset premier, il nous est dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. » C'est pendant le souper, c'est pendant le repas, le saint repas. Il nous est dit ceci, verset 3. « Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. » Vous voyez les étapes ? Il se lève, il ôte, il se dépouille et il revêt le linge du serviteur. C'est la même chose qui est écrite dans Philippiens. Mais là, on le voit qu'il le fait concrètement. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Un peu plus loin, au verset 16, au verset 12, il est écrit « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Le voilà le modèle. Le voilà l'exemple du disciple. Être disciple de Christ, je le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, c'est faire comme le maître. Voilà ce que le maître a fait. Il n'a pas regardé à lui, mais il a regardé à ses disciples. Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant, on va tous prendre des bassines, puis on va se laver les pieds les uns aux autres ? Non. Voilà, avec le CA, on a acheté plein de bassines. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut retenir quand il a dit qu'il vous a donné un exemple, c'est comme un maître qui peint. Ce n'est pas parce qu'il a peint un tableau qu'on va faire strictement le même. Mais on va utiliser la même méthode. C'est le même état d'esprit, vous comprenez ? Et au final, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un principe. Il y a la croix, l'œuvre que Jésus a faite. Mais il y a aussi la pensée de la croix. La pensée de la croix, c'est l'état d'esprit. C'est ce qui a amené, c'est la pensée qui a amené Jésus à prendre la croix. Et cette pensée, elle consistait à non pas regarder à lui, à ses intérêts. Cette pensée, c'est celle qui consiste à regarder à l'intérêt de l'autre. C'est la pensée de la croix. Et pour Jésus, notre intérêt, pour que nous puissions être sauvés, il fallait qu'un juste paye le prix sur la croix. Comme il n'y avait personne, pas même un juste sur la terre, alors il est venu et il a payé le prix parce que c'était dans notre intérêt et que c'était le seul moyen qui était donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Alors, vous avez, Quand on a compris ce que c'est que la croix du maître, surtout cette pensée de la croix, ce principe, alors on peut comprendre ce que ça veut dire pour le disciple de prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'avoir cette pensée. Tout à l'heure, on a lu le texte « Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Mais littéralement, en fait, le mot, à la place de sentiment, c'est la forme de pensée. Darby, il le traduit de cette manière. « Qu'il y ait en vous, donc, cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. » La pensée. La pensée de la croix. C'est ça la marque du vrai disciple. C'est cette pensée. La pensée de la croix. Il va dire, verset 4, on l'a lu, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc la croix du disciple, c'est quoi ? C'est faire comme son maître, c'est de ne pas considérer mon intérêt, mais c'est de considérer l'intérêt de l'autre. La croix du disciple, c'est quoi ? C'est avoir cette pensée de ne pas m'élever au-dessus des gens, mais m'abaisser pour les servir. La pensée de la croix. C'est de descendre de ma position, c'est même de me dépouiller de choses auxquelles je pourrais avoir droit pour servir les autres. Pour servir les autres. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que certains d'entre nous se sentent inférieurs aux autres ? Non, c'est pas ça que ça dit. On a tous le même prix. Tout le monde dans cette salle, tout le monde sur cette planète a la même valeur. Ce qui définit la valeur, c'est le prix qui a été payé. Le prix qui a été payé pour moi et pour vous, c'est le même. C'est la vie de Jésus-Christ. On a tous la même valeur. Mais tout le monde ne va pas accepter de descendre pour servir les autres. Ceux qui font ça, c'est ceux qu'on appelle les disciples de Jésus-Christ. Être un enfant de Dieu, c'est facile, c'est gratuit. Le salut, il est offert. C'est le prix que Jésus a payé. Mais servir les autres, là, ça a un coût que moi, je peux payer. Vous comprenez ? Pas pour qu'ils soient sauvés, mais pour les amener à Jésus-Christ. Pas parce que moi, je veux les sauver, enfin, dans le sens par mes forces, mais parce que je veux être au service. La pensée de la croix, c'est la pensée du service. Et ça ne sera imposé à personne. C'est écrit que celui qui veut venir après Jésus, qu'il se charge de sa croix. C'est pas Jésus qui l'impose. C'est un verbe actif, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de nous. Et personne n'a à imposer à une autre personne de prendre la croix, de servir les autres. C'est quelque chose qui ne peut venir que de vous. Tout comme personne l'a imposé à Jésus-Christ, il l'a fait de lui-même, c'est écrit deux fois. Nous pouvons aussi le faire de nous-mêmes. C'est ça la pensée de la croix. C'est ça qui est la marque du disciple. Pas juste de l'enfant de Dieu, mais de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, du disciple de Jésus-Christ. Alors on peut se poser la question, d'accord, je suis d'accord. Mais pratiquement, comment on fait ? C'est quoi pratiquement prendre sa croix ? Parce qu'il faut aussi que le message il soit pratique. Où est-ce que ça commence de prendre sa croix ? Dans Éphésiens au chapitre 5, verset 25, il nous est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ, donc comme le modèle, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, 25. « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Je crois que le premier endroit où il nous faut apprendre à se charger de notre croix, c'est à la maison. À la maison. C'est avec ses proches, c'est avec ses conjoints, si on en a, c'est avec ses enfants, si on en a, c'est avec ses parents. Et vous savez, concrètement, dans la vie, si on reste, il y a toujours un moment où il y a mon intérêt qui est confronté à l'intérêt de l'autre. Ça vous est jamais arrivé ? Ah si, quand même. Il y a mon intérêt à moi, il y a quelque chose que je pourrais faire qui est dans mon intérêt. Mais il y a aussi au même moment quelque chose que je pourrais faire qui est dans l'intérêt de l'autre. Imaginons un mari qui rentre du travail, il est fatigué, il est épuisé, il a travaillé pour amener l'argent à la maison. Et puis la femme, elle aussi, elle est fatiguée. Et il y a la vaisselle à faire. Les deux sont autant fatigués. Ah ouais, c'est pas très haut niveau, hein, Mais il faut commencer par les petites choses. Hein. Celui qui est fidèle dans les petites, il sera fidèle dans les plus grandes choses. Moi, je vois que tout le monde, tous les couples se parlent. Alors, lequel est le plus grand? Lequel est le plus mature? Celui qui va se sacrifier pour l'intérêt de l'autre. C'est des choses simples. C'est simple. C'est des choses qui sont pratiques. Pareil, entre un enfant et ses parents. Qu'est-ce qui peut être dans l'intérêt de mes parents? À un moment, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'aimerais bien regarder ceci, regarder cela, prendre du temps pour moi, mais je vois que mon père ou ma mère, ils ont besoin de ça. Mais j'ai pas envie. Regardez à l'intérêt de l'autre. À l'intérêt de l'autre. Oui, à la maison. Mais je crois aussi dans l'église. Vous savez, de toute façon, la maison, c'est la première des églises qui vous est confiée. Si vous n'êtes pas fidèle avec vos proches, si un homme n'est pas fidèle avec sa femme, comment il pourra l'être avec l'église? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais en tout cas, aussi, nous pouvons l'être avec l'église. Dans 1 Jean 3,16, il nous est dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donner notre vie pour les autres. Alors, en préparant ce message, je pensais à la prière. Ben oui, prier, c'est pas facile. Des fois, on aimerait faire plein d'autres choses. Mais est-ce que des fois, prendre du temps, sacrifier du temps pour l'autre, c'est pas ça? Agir dans l'intérêt de l'autre? Parce que c'est vrai que s'il y a plein de choses que moi, je peux pas faire, Dieu, lui, il peut. Et par contre, demander à Dieu d'agir et de bénir les frères et sœurs, ça, je peux le faire. Et c'est à la portée de tout le monde. Mais ça va avoir un coût. Et si je veux vraiment être comme le maître, comme un disciple, il faut que j'accepte que dans les choses pratiques, il puisse y avoir cela. Là, je pensais aussi aux enfants, par exemple, à l'école du dimanche. Est-ce que c'est possible même de se mettre au service des enfants et d'utiliser ma vie, mon temps, pour bénir même les enfants? En tout cas, Jésus l'a fait. Il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et il les a bénis. Il les a bénis. Et cette image, elle se retrouve dans toute la Bible. On a l'image du corps, vous savez, on est tous, chacun, les membres du corps. Mais au final, si on réfléchit, chaque membre, il travaille pour le corps. Ma main, elle ne travaille pas pour elle-même, elle travaille pour le corps. Mon pied, c'est pareil, mon cœur, mes poumons, tout travaille dans le but du bien commun. Imaginez que chacun de mes membres se mette à penser à lui-même ou à faire que les choses qu'il voudrait. Vous imaginez, ce serait complètement incohérent, anarchique. Le principe d'un corps, quand il est dit qu'on est membre du corps de Christ, le principe d'un corps, c'est qu'au final, chacun des membres que nous sommes, tous différents, tous de formes différentes, tous de fonctions différentes, mais tous au service d'un seul et même corps. Tous au service d'un seul et même corps. Et au final, on voit que pour que le corps fonctionne bien, il faut que tous les organes fonctionnent bien. Et d'ailleurs, j'aimerais dire que si on regarde l'image du corps, on se rend compte que finalement, les organes vitaux, c'est ceux qu'on ne voit pas. On peut m'enlever un bras, je survivrai. L'autre aussi, les jambes aussi. Par contre, on m'enlève le cœur, on m'enlève les poumons. En fait, tout ce qui est caché, si on l'enlève, le corps, il ne fonctionne plus. Et vous savez, des fois, ce n'est pas les services les plus visibles qui sont les plus vitaux. Ce qui est vital, c'est la prière. Ce qui est vital et ce qui fait le poumon, le cœur de l'Église, c'est la prière. C'est quand on accepte de prendre du temps que je pourrais avoir pour moi et le mettre à disposition des frères et des sœurs. Les mettre à disposition de l'œuvre de Jésus-Christ. Et si je m'occupe de l'œuvre de Jésus-Christ, Jésus-Christ s'occupe de moi. C'est comme ça que ça marche. Et si je m'occupe du corps, si je fais partie du corps, le corps s'occupe de moi. Vous comprenez? Si j'ai mal au petit doigt, il y a tout le reste du corps qui va venir au secours de mon petit doigt. Parce qu'il y a une union. Et parce que chacun des membres travaille pour l'autre. Chacun de mes membres travaille pour absolument tous les autres membres. C'est le principe du corps de Christ. Et c'est vrai que quand quelqu'un refuse cela, quand quelqu'un refuse de donner de son temps, de donner, au final, d'avoir cette pensée, quand un corps cesse de fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Si mon bras, boum, il ne fonctionne plus. Ça handicape. Ça handicape. Et des fois, le fait que l'on n'accepte pas de servir les autres, que l'on n'accepte pas de cette pensée-là, ça handicape le corps de Christ. Servir les autres. Au verset 3, il est dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous fasse regarder les autres. Et vous savez, je crois qu'il est aussi important de regarder les autres. Souvent, avant que Jésus fasse quelque chose, il est écrit « Jésus le vit » ou « vit la foule » et fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, dans la parabole du bon samaritain, il fut ému de compassion. Pierre et Jean, quand ils sont allés au temple, il s'est écrit qu'il va fixer les yeux sur le boiteux. Il va regarder. Et vous savez, j'avais cette question sur le cœur, mais depuis quand je n'ai pas regardé mon frère? Depuis quand je n'ai pas regardé l'autre? Peut-être parce que je suis trop occupé à regarder à moi. Et vous savez, Jésus, j'ai envie de dire merci Seigneur de ce qu'il est regardé à nous, et qu'il n'est pas regardé à lui. Et quand il a regardé à nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la compassion. Et parce qu'il y a eu de la compassion, il a agi dans notre intérêt. Le bon samaritain, il a vu la personne qui était dans le besoin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de son âne, il s'est abaissé, il a mis l'autre par-dessus, il a élevé celui qui était blessé, et quand il est arrivé à l'hôtellerie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé de sa poche la pensée de la croix. Elle est partout dans la Bible. Elle est partout dans la Bible. Et j'avance. Et je pense que si on est honnête, juste une pensée quand même avant le dernier point. Il nous est dit quand même au Philippiens chapitre 3, verset 17, verset 18, « Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Donc il y a des ennemis de la croix. C'est pour ça que Paul y parlait autant de la croix aux Philippiens. « Leur fin sera la perdition. » Et voici ce qui les caractérise. « Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Trois choses. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et oui, le contraire de cette pensée, le contraire de la croix, c'est quoi? Le contraire de voir l'intérêt dans l'autre, c'est l'égoïsme. Souvent, ce qui fait que ça ne va pas, ce qui fait qu'il y a un problème, c'est qu'on est égoïste. Ce qui fait qu'il y a des problèmes dans les couples, souvent, c'est qu'il y a l'égoïsme. C'est qu'on utilise l'autre pour soi. On agit toujours dans son intérêt, plutôt que regarder l'intérêt de l'autre. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il y a une pensée aussi qui est contraire, une pensée qu'il y a dans le monde, on l'a entendu tout à l'heure, qui ne doit pas être dans le cœur du disciple. Et même Dieu va jusqu'à déclarer cela, l'égoïsme, comme l'ennemi de la croix. Je répète ces trois choses, parce que je crois que c'est vraiment pour quelqu'un. Et Paul le disait en pleurant, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Ils ne pensent qu'à eux et qu'aux choses de la terre. Quand Jésus va dire qu'il va être crucifié, Pierre va dire « Ah non, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. » Vous savez, la pensée qui s'oppose à la croix. Que va dire Jésus ? « Arrière de moi, Satan. » L'égoïsme, c'est l'anticroix. Et si on est honnête, alors est-ce que c'est facile de faire ce que je viens de décrire ? Est-ce que c'est facile de considérer toujours l'intérêt de l'autre ? Alors, je ne sais pas, moi, ça m'arrive souvent de voir ce que je pourrais faire pour l'autre et de ne pas y arriver. Ce n'est pas facile, si on est honnête, de faire ça. Et je pense que face au modèle, quand on voit vraiment la perfection, on se rend compte de notre imperfection. On se rend compte de toutes les fois où j'aurais pu agir dans l'intérêt de l'autre et je ne l'ai pas fait parce que j'ai agi dans mon intérêt. C'est pas facile. C'est pas facile de se dépouiller pour revêtir l'autre. C'est pas facile de mettre l'autre au-dessus de moi. Au contraire, moi j'ai tendance à me mettre au-dessus de l'autre. Ça, c'est plus facile. Mais mettre l'autre au-dessus de moi, c'est pas facile. Et vous savez, oui, il nous faut cette pensée. Oui, il nous faut cet état d'esprit. Mais plus qu'un état d'esprit, il nous faut le même esprit que Jésus-Christ. Si l'on veut porter la croix avec efficacité, si l'on veut faire des progrès, si l'on veut aller plus loin, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a amené Jésus à aller sur la croix. Le Saint-Esprit, souvent, dans la tête des gens, c'est comme si c'était le baptême du Saint-Esprit, notamment, c'est comme si c'était une puissance qui était donnée pour être au-dessus. Quand je suis au-dessus du Saint-Esprit, je surfe sur les épreuves, tout est facile, et je suis au-dessus des autres. Le Saint-Esprit, il a été donné, et notamment le baptême du Saint-Esprit, il a été donné pour être des témoins. Le Saint-Esprit, il a été donné pour nous enseigner dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous a été donné, non pas pour que nous soyons des chrétiens plus, mais pour que nous soyons des serviteurs plus. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour nous. Et nous, des fois, on est tellement tordus qu'on est capable de chercher le baptême du Saint-Esprit dans notre intérêt. Parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on le vit mieux. C'est comme si c'était bien pour nous. Non ! Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la croix. La pensée de la croix, elle est insufflée par le Saint-Esprit. Et si je veux être un serviteur de Dieu, si je veux être un disciple de Jésus-Christ, si je veux faire comme lui, j'ai besoin du même esprit. Je ne peux pas le faire par moi-même. Et souvent, on est là, on voit le besoin, mais on n'arrive pas à y répondre. Pourquoi ? Parce que je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Mais si je ne prends pas le temps de recevoir, je ne pourrai pas donner. Mais dans Jacques, il est écrit des fois que même on demande, mais on ne reçoit pas. Pourquoi ? Parce qu'on demande dans le but de satisfaire nos propres désirs, nos passions. Si je veux apporter quelque chose à l'Église, si je veux apporter quelque chose pour mon frère, si je veux agir dans son intérêt et que je me rends compte que je n'y arrive pas, que c'est toujours centré sur moi, j'ai besoin de quelque chose de supérieur qui ne peut pas venir de moi. J'ai besoin d'une pensée qui ne peut venir que d'en haut. C'est celle de l'Esprit. Combien de temps est-ce que j'ai passé récemment à chercher la présence du Saint-Esprit, mais pas pour moi, pour l'autre ? Un vase, quand il déborde, ce n'est pas pour lui, c'est pour que ça déborde sur les autres. Si je veux qu'il y ait cette vie qui coule en moi et que cette vie, elle jaillisse dehors, mais c'est parce que je veux qu'elle aille dehors. Je veux qu'elle aille sur les autres. Souvent, nous, on est là, on veut le surnaturel. Mais même les dons spirituels, ils ont été donnés pour l'édification de l'Église. Quand on voit l'Église de Corinthe, ils avaient tous les dons. Et pourtant, il y avait une chose qui n'allait pas, c'est que malgré le fait qu'ils avaient tous les dons, ils agissaient dans leur intérêt. Il suffit de relire 1 Corinthiens 12, 13 et 14 pour comprendre pourquoi en plein milieu des dons spirituels, il y a 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Parce que le plus important, c'est même quand on manifeste les dons, c'est que ça soit pour les autres. Pour les autres. Chercher à avoir les dons spirituels, oui, mais pour bénir les autres. Si je dis « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit », parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Parce que si je suis rempli du Saint-Esprit, j'aurai autorité. Non, mais si je dis « Seigneur, tout seul, je n'y arrive pas. Quand j'essaye par mes propres forces, je n'arrive pas. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton esprit pour réussir à servir les autres. » Mais là, il vous sera donné. Et je peux même dire, c'est bizarre qu'il ne vous soit pas donné. C'est obligé, parce que c'est dans la pensée de Christ. Il nous est dit que quand on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et que s'il nous écoute, il nous donne la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Et si on demande selon sa volonté que notre pensée ne soit plus centrée sur nous, mais soit centrée sur l'autre, et que je me rends compte que je n'arrive pas à donner, que j'ai besoin que le Saint-Esprit me donne pour donner à l'autre, alors Dieu vous exaucera. C'est obligé, il vous exaucera. Parce que c'est sa volonté, c'est ce qu'il désire. Il attend ça. Il attend ça. On a besoin du même esprit. Et je finis. Jésus va dire, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Et enfin, pour finir, cette dernière pensée. Oui, il y a la croix. Mais au verset 9, il nous est dit, c'est pourquoi ? Enfin, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Après la croix, il y a le trône. Si j'accepte de m'abaisser aujourd'hui, demain, je régnerai avec lui. Pourquoi Jésus est celui qui a le nom au-dessus de tout nom ? Parce qu'il est celui qui s'est abaissé, le plus bas. Et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous. Et aujourd'hui, sur cette terre, nous ne sommes pas appelés à régner. Il y a des courants évangéliques qui disent qu'il faut avoir autorité sur la politique, sur les arts, sur l'éducation. Non, on n'est pas appelé à régner ici-bas. On est appelé à servir. Mais un jour, il y aura le règne. Et si j'accepte de prendre ma croix ici-bas, Dieu est juste. Et plus tard, il vous donnera le règne. Et celui qui accepte de s'abaisser volontairement pour Christ, un jour Dieu l'élèvera. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que l'on a fait. Dieu est juste. Dieu est juste. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Et Seigneur, par-dessus tout, que cette pensée de la croix soit gravée dans les cœurs. Seigneur Jésus, ce que nous désirons, c'est être tes disciples et c'est être comme toi. Et nous réalisons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien, que sans ton esprit, nous ne pouvons pas. Mais merci parce que tu nous as dit qu'il était avantageux que tu t'en ailles, parce que si tu étais parti, tu enverrais l'Esprit Saint. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que tu nous as laissé cet avantage, de pouvoir vivre par ton esprit, afin d'être comme toi. Seigneur, vraiment, ce que nous voulons, c'est faire des progrès et aller à ta ressemblance. Alors, Seigneur Jésus, aide-nous. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Seigneur Jésus, pardon pour toutes les fois où nous regardons à nous-mêmes plutôt que regarder à nos frères et sœurs. Pardon pour toutes les fois où nous agissons pour nous plutôt que pour toi, Seigneur. Mais merci parce que tu es le Dieu qui fait grâce. Et merci, comme Paul disait qu'il n'avait pas encore atteint le but. Seigneur, nous savons que nous ne l'avons pas atteint, mais nous courons vers toi, Seigneur. Et ce que nous te demandons, c'est que cette journée, que les jours qui viennent, soient des occasions pour nous de faire un pas de plus avec toi et pour toi. Merci Seigneur Jésus et que ton nom soit béni. Amen.